RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler des travailleurs pauvres. Je vous propose de nous tourner vers les saisonniers, car des dizaines de milliers de postes pourvus de saisonniers chaque année en France. Ça, c'est une observation des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes de tout horizon. Certains sont là pour payer leurs futures vacances ou leurs études. D'autres enchaînent tout au long de l'année leur contrat, et on va pouvoir en discuter jusqu'à 11h. On va parler de leurs droits également. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Et si vous avez déjà été saisonnier, que vous avez travaillé en station, à la mer, dans un champ et j'en passe, venez témoigner. Comment avez-vous vécu cette expérience? Et puis même question pour vos enfants ou petits-enfants qui ont déjà été saisonniers. Comment ont-ils vécu ça? Et je me tourne également vers les employeurs. Pourquoi recrutez-vous des saisonniers? En quoi ça vous avantage? Et puis comment les accompagnez-vous? Et pensez-vous plus généralement que c'est un secteur à encadrer beaucoup plus? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Stéphanie Daillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes la secrétaire nationale de la CFDT Service. Peut-être un mot d'explication, on entend plus parler de la CFDT. CFDT Service, c'est encore autre chose, c'est une autre branche de la CFDT.
Alors la CFDT Service est une fédération de la CFDT. À la CFDT, il y a 15 fédérations. Il y a la Fédération des santé sociaux, il y a la Fédération sur les transports et la Fédération des services. C'est la deuxième plus grosse fédération de la CFDT qui inclut tout ce qui est services et commerce. On représente à peu près 5 millions de salariés.
Voilà, la CFDT, je rappelle, la Confédération française démocratique du travail. Un mot sur cette notion de saisonnier. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par ce terme, d'après vous, Stéphanie?
Alors, les saisonniers, il y a plusieurs catégories de saisonniers. Ouais. Il y a les saisonniers qui sont des jeunes en job d'été. Il y a ce qu'on peut appeler aussi des pluriactifs locaux. Ce sont des saisonniers qui habitent dans une région et qui profitent de ce qu'ils vont pouvoir trouver à l'instant T. Donc, ça peut être de travailler dans un camping de avril à octobre et puis ensuite enchaîner sur les vendanges, ensuite faire par exemple de la figuration de cinéma. Et donc, il y a plusieurs catégories, il y a ces deux catégories-là. Et on a aussi donc les saisonniers qui eux sont des saisonniers qui travaillent dans de l'hôtellerie ou dans des espaces qui sont saisonniers. Par exemple, sur la Côte d'Azur, les hôtels sont saisonniers d'avril à octobre, ils sont fermés le reste de l'année. Et il y a ces saisonniers qui peuvent être saisonniers et qui peuvent avoir 20 ans, 30 ans d'ancienneté dans le même établissement.
Stéphanie Daillon, je vous présente Marion Olivier qui nous a rejoint. Bonjour Marion.
Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de nous accompagner jusqu'à 11h. Vous êtes la responsable de la Maison du Travail saisonnier de Lourdes et de Sévalet, qu'on appelait il y a quelques années guichet unique, notamment juste avant le Covid.
Alors, on a été créé pendant le COVID, effectivement. On est un héritage du Covid sur notre territoire, puisque on a créé cet outil pour répondre aux besoins des saisonniers, notamment de la saison lourdaise, qui était fortement impactée par la situation Covid. Et effectivement, ce guichet unique avait d'abord vocation à répondre aux besoins sociaux des saisonniers, se transformer en maison du travail saisonnier pour Lourdes et la vallée des Gaves, pour répondre effectivement aux besoins des saisonniers et des employeurs du territoire.
Voilà, et on n'oublie pas les employeurs, bien sûr, et vous avez la parole d'ailleurs ce matin au 04 72 38 20 23. Nicolas Savary, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Merci. Directeur de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Alors, l'association explique assez facilement le nom de l'association. On comprend vraiment votre objectif. Vous agissez également pour accompagner les saisonniers et leurs employeurs dans l'ANEFA.
Tout à fait. Alors, juste préciser ce qu'est la NFA, même si effectivement le sigle est assez révélateur. On est une association qui vise à promouvoir les métiers. L'emploi pérenne comme saisonnier, et puis la seconde mission c'est de mettre en relation l'offre et la demande d'emploi, y compris sur les emplois saisonniers. Pour information, dans la filière, l'emploi saisonnier représente à peu près 1 million de contrats signés sur une année civile.
Et donc pour les saisonniers, donc vraiment dans le monde agricole, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier à part entière d'après vous, Nicolas Savary ?
Oui, dans le sens où les saisons en agriculture commencent de plus en plus tôt. On commence déjà là à partir de février sur des emplois saisonniers. Ça va jusqu'en septembre-octobre. Et que concrètement, sur les trois filières les plus employeuses d'emplois saisonniers que sont la viticulture, le maraîchage et l'arboriculture, potentiellement, on peut enchaîner plusieurs saisons dans une même saison et donc en faire un métier, enfin, un statut à part, spécifique dans la filière agricole. Et donc l'idée étant de pour ces personnes qui dont c'est un choix de vie, de pouvoir enchaîner plusieurs contrats saisonniers sur une même année civile.
Stéphanie Dayan, ce métier de saisonnier, est-ce que c'est un métier qui est très encadré en France ?
Alors, c'est un métier qui est encadré par un contrat, qui est un contrat saisonnier, qui est beaucoup utilisé pour tous les travailleurs qui travaillent dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, tout ce qui est espace de loisirs. Par contre, c'est un secteur où le code du travail est moyennement respecté.
Ça, c'est ce que vous observez à la CFDT.
Oui, ouais. Oui, bien sûr. Ce sont des emplois qu'on peut qualifier de précaires. Donc, on se trouve face à des salariés qui pensent que comme ils sont sur des emplois précaires, n'ont pas vraiment de droits. Ou alors font des petits arrangements et en fait on se retrouve, ce sont les salariés qui souvent sont déclarés. On va pas parler du travail au black, mais voilà, les salariés sont déclarés, on va dire c'est ce qu'on appelle le travail au gris, ils vont être déclarés sur une base du SMIC. Et puis après, il y a des petits arrangements. Et ça, par contre, les salariés de maintenant, en tout cas après la crise du Covid, ne sont plus forcément en adéquation avec ça. Donc, c'est un secteur où les salariés sont... où le code du travail est peu respecté.
Et on voit ça dans tous les secteurs, dans toutes les filières ?
Alors, pas forcément dans toutes les filières. Il y a des filières qui sont un petit peu plus vertueuses. Dans l'hôtellerie de plein air, ce qui est camping, est peut-être un peu plus vertueux. Les espaces de loisirs qui sont assez encadrés. Par contre, dans tout ce qui est hôtellerie, tourisme, restauration ou la branche des hôtels, cafés, restaurants, il y a des employeurs qui sont corrects mais en fait, ils subissent souvent, il y a une pénurie de saisonniers, ils n'en trouvent pas parce que justement, ils subissent les effets pervers d'autres employeurs qui ont profité en fait de salariés en les faisant travailler sur des horaires à rallonge, avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, pas de jours de repos. Donc, le secteur recrute, il y a toujours cette pénurie d'environ 200 000, 300 000 saisonniers qui manquent toujours à l'appel. Donc voilà, au niveau de la CFDT, oui. On lutte justement, on revendique les droits, on négocie en branche de manière à ce que justement les saisonniers aient accès et aient la connaissance. En fait, c'est ça surtout, c'est que les saisonniers n'ont pas forcément la connaissance de leurs droits.
Et c'est pour ça qu'on vous a invité, Marion Olivier, ce matin pour parler, je le rappelle, de la maison du travail saisonnier de Lourdes et Savallée. Est-ce que c'est une réponse finalement à ces problèmes de méconnaissance des droits des saisonniers, cette maison ?
Oui, bien évidemment, c'est tout à fait le rôle aujourd'hui qu'on a, j'allais dire des deux côtés, c'est à la fois accompagner les saisonniers dans l'accès à leurs droits, de les connaître, de pouvoir effectivement, et d'opérer aussi ce dialogue social, hein, parce qu'il peut nous arriver aussi de conseiller, en tout cas de répondre sur la question du droit du travail à des questionnements que peuvent avoir les saisonniers, mais aussi d'accompagner les employeurs, justement, vous l'avez évoqué, Stéphanie, pardon, à être beaucoup plus vertueux, effectivement. Et c'est, je pense, une vraie volonté de la branche aujourd'hui, parce qu'il y a des vrais, vous l'avez expliqué et redit, des tensions de recrutement. Et donc, il y a une nécessité à avancer sur cette question de la qualité de vie et des conditions de travail, à améliorer, effectivement, aujourd'hui, ce qui a pu faire fuir les saisonniers, c'est bon, ça peut être la situation qu'ils ont rencontrée pendant le Covid, ça a été effectivement un rapport au travail qui a pu changer, et, une envie peut-être différente, donc la capacité à avoir plusieurs jours de repos, à pouvoir prendre des congés, ça c'est aujourd'hui un élément de base essentiel, et on se rend bien compte que les employeurs effectivement qui respectent à la fois les rémunérations, qui payent les heures sup et qui traitent correctement leurs salariés n'ont pas de problème de recrutement, ça c'est évident. Et aujourd'hui, on est vraiment là pour accompagner ces éléments-là, faire en sorte que, et je crois que c'est ce que M. Savary a évoqué, la nécessité d'envisager le travail saisonnier comme un emploi durable. Hein, nous, c'est essentiel, on ne peut pas faire autrement sur nos territoires parce que bah, la donnée saisonnière, elle fait partie intégrante de la réalité économique. Hein, quand on a sur les Hautes-Pyrénées 34% de notre poids économique qui est lié au tourisme, on peut difficilement faire sans. Donc effectivement, il faut absolument que nous on travaille aussi sur la durabilité de ces emplois-là, vous l'avez évoqué, la pluriactivité, oui. Et de proposer effectivement des parcours beaucoup plus sécurisants pour ces personnes.
Nicolas Savary, en France, l'agriculture représente un quart des contrats saisonniers signés chaque année. Ça demande une vraie exigence justement autour du droit du travail, du code du travail et bien sûr un encadrement autour des saisonniers.
Oui, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. Voilà, le statut de travailleur saisonnier, enfin, on répond, il y a un contrat de travail spécifique sur ce statut. Nous, en tant qu'association paritaire, hein, je le précise, donc concrètement composé à parité entre représentants d'employeurs et représentants de salariés, faisons en sorte de rappeler effectivement les règles légales de droit du travail qui s'appliquent à ce contrat saisonnier. On a mis en place un livret saisonnier justement qui rappelle effectivement les règles juridiques en la matière. Et c'est un travail effectivement au quotidien auprès des auprès aussi des employeurs pour leur rappeler que il y a des dispositions légales qui doivent nécessairement s'appliquer.
Quel est votre regard, vous, Stéphanie Dayan, avec le regard que vous avez de la CFDT Service, est-ce que ça bouge en ce sens? Est-ce que il y a peut-être une prise de conscience de la part des employeurs et des saisonniers qu'il y a quand même des règles à respecter?
Oui, ça bouge. Marion l'a dit, il y a des employeurs qui veulent avancer. Hein. La crise du Covid a rebattu quand même les cartes. Les salariés ont fui vers d'autres secteurs pour trouver plus de régularité, plus de leurs jours de congé, ne pas avoir de coupures, etc. Donc, certes, bien sûr, les employeurs veulent avancer. En plus, ils sont victimes, hein, puisque ils ne trouvent pas suffisamment de salariés pour ouvrir parfois le restaurant ou en saison. Ils n'ont pas la capacité de recevoir le nombre de clients qu'ils souhaiteraient. Donc, l'objectif est commun à tous, hein, c'est qu'on doit traiter les salariés saisonniers de façon correcte, hein, en respectant le code du travail, puisque là, c'est quand même une des branches, et je pense que je vais pas aller sur l'agriculture, puisque ça n'est pas mon secteur, mais oui. Je pense que voilà, c'est très compliqué de faire respecter le code du travail.
Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ?
Parce que pour beaucoup de salariés qui sont des saisonniers qui sont jeunes, pour beaucoup c'est un premier emploi, donc ça tire vers le bas en fait. Ils vont pas forcément négocier, ils vont travailler un mois, deux mois, trois mois, et voilà, ils veulent avoir un petit pécule ou avoir un peu d'argent pour la suite, pour leurs études, et n'ont pas forcément envie d'aller négocier de leur droit à leur régime de santé, par exemple la portabilité, beaucoup ne l'utilisent pas sur la branche des hôtels, cafés, restaurants. Enfin, il y a une portabilité et il y a une portabilité sur toutes les branches, et en particulier sur cette branche-là, sur le régime de la branche, il y a une portabilité qui n'est pas utilisée, avec des millions qui sont un peu en souffrance parce que les saisonniers n'ont pas connaissance de ce droit-là, ou alors que l'employeur ne fait pas forcément, ne remet pas les papiers adéquats aux salariés, ce qui fait qu'en fait, il n'a pas du tout connaissance, il ne l'utilise pas. Donc, il y a ça, il y a le logement. Il faut aussi trouver, par rapport à la situation du logement en France pour les saisonniers, c'est extrêmement compliqué pour un saisonnier qui n'a pas de famille, ou qui peut l'héberger, ou qui n'est pas embauché dans un endroit où l'employeur propose un logement à bas coût. C'est très compliqué pour un saisonnier d'aller y travailler. Il y a des endroits en France où c'est cher.
Je vous coupe, mais c'est une obligation de la part de l'employeur de fournir un logement pour les saisonniers, ou alors c'est juste ce que vous dites, c'est d'informer le saisonnier qu'il y a dans la région des logements disponibles?
Alors, ça n'est pas
différentes.
Voilà, ça n'est pas une obligation. Maintenant, on peut penser que quand vous êtes saisonnier en station alpine, si on ne vous propose pas un hébergement ou un loyer modéré, si vous travaillez à Courchevel, à mon avis, vous allez avoir des difficultés pour vous héberger. Ça va vous coûter plus cher de vous trouver un logement que de travailler. Donc, il y a des endroits où forcément l'employeur est obligé de proposer un logement. Maintenant, il y a aussi des maisons des saisonniers en station ou ailleurs qui peuvent proposer. Après, il y a Action Logement aussi qui propose avec la garantie visale. Après, je vois que c'est peut-être plus compliqué, mais de toute façon, la problématique des saisonniers passe essentiellement aussi par une solution au niveau de l'hébergement. On ne peut pas accepter qu'un saisonnier qui travaille dans un camping, par exemple, à qui on va louer un bungalow pour la saison à 300 euros pour que il puisse faire la saison, qu'en cours de saison, on le mette dehors du bungalow pour le louer à la clientèle, parce qu'en fait, c'est plus intéressant de le louer à des clients.
Ouais. Marion-Olivier, à la maison du travail saisonnier de Lourdes et Savallée, je crois que la question du logement, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent.
Alors c'est évident, parce qu'aujourd'hui, alors j'allais dire, nous on se situe dans les Pyrénées. Les Pyrénées, ils ont moins d'expérience de la saison que les Alpes. Donc autant dans les Alpes, vous allez trouver quasiment systématiquement des offres emploi plus logement. Sur les Pyrénées, c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait de notre besoin d'aller chercher des saisonniers ou de renouveler la main-d'œuvre saisonnière, on est confronté aujourd'hui à ces difficultés de pouvoir proposer du logement. C'est une vraie complexité. Ça n'était pas forcément jusqu'alors. Et en tout cas, j'allais dire, ça l'est malheureusement pour tous les salariés de ces territoires qui sont aujourd'hui sous pression des résidences secondaires, des meublés de tourisme, qui effectivement créent une pénurie de logements. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, la solution, elle passe par des dispositifs qui permettent à ces saisonniers de se loger. Alors, en plus, effectivement, en zone montagne, les kilomètres, ils sont parfois plus rapidement plus longs à effectuer. Donc, on peut difficilement dire, on les loge plus loin. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique sur laquelle l'État essaye d'intervenir. Hein. Il y a des leviers qui sont mis en œuvre. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de proposer des solutions à tous les saisonniers qui recherchent du logement sur nos territoires.
Comment ça se passe, Nicolas Savary, dans le monde agricole ?
C'est la même problématique, d'autant plus que par principe le monde agricole c'est le milieu rural, donc en dehors des grandes villes. Clairement aujourd'hui les employeurs qui n'ont pas de difficulté à trouver des saisonniers bien souvent proposent un logement, un hébergement le temps de la saison. C'est clairement un élément d'attractivité pour attirer des salariés, pour les fidéliser également, parce que bien souvent ces personnes-là, le temps d'une saison, reviennent la saison suivante. À côté de ça, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, notamment des aides financières par Action Logement pour les travailleurs saisonniers dans la filière agricole, une aide qui peut aller jusqu'à 600 euros. Donc Après, à côté de ça, nous, à NEFA, on essaye de recenser les différents lieux d'hébergement possibles pour les saisonniers. Donc, on essaye d'œuvrer à notre échelle sur ce sujet, mais il y a encore bien, bien d'autres choses à faire. Et puis, une autre problématique aussi qui se pose quand même dans la filière agricole, et faut pas l'oublier, c'est aussi la question de la mobilité, parce que par principe, on est sur les territoires ruraux. Donc, en plus de l'hébergement, il y a aussi le périphérique lié à la mobilité qui peut être aussi un frein à l'accès à ces emplois saisonniers. Alors, voilà, on essaie de trouver des solutions, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces sujets.
Je rappelle que on parle du travail saisonnier ce matin dans Je pense donc j'agis, et vous avez la parole pour en témoigner. Si vous avez été saisonnier dans votre vie, que vous avez travaillé en station, à la mer, dans un champ, venez témoigner. Comment avez-vous vécu cette expérience, hein? Même chose pour vos enfants ou petits-enfants qui ont connu cette situation. Et je me tourne aussi vers les employeurs qui nous écoutent. Si vous recrutez des saisonniers, dites-nous pourquoi. Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous leur faites aussi connaître leurs droits? On a envie de tout savoir. Au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos trois invités jusqu'à 11h, Nicolas Savary, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ANEFA, Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture. Marion Olivier, responsable de la Maison du Travail Saisonnier de Lourdes et ses Vallées. Et Stéphanie Dayan, secrétaire nationale de la CFDT Service. Stéphanie, est-ce qu'il y a des avantages à être saisonnier?
Est-ce qu'il y a des avantages à être saisonnier?
Oui, parce que c'est vrai que depuis le début de cette émission, bien sûr, on parle souvent des jeunes qui peut-être pour s'offrir des vacances vont travailler quelques semaines ou quelques mois, mais dans des conditions qui ne sont pas très agréables parfois. Alors, le tableau n'est pas totalement noir, hein, mais je me demande quels sont vraiment les avantages à être saisonnier?
Dans certains secteurs, il peut y avoir des avantages. Si vous êtes animateur dans un club de vacances, par exemple, pour un gros tour, des tours opérateurs, et que vous partez à l'étranger, l'avantage, effectivement, c'est que vous êtes rémunéré et que vous êtes nourri, logé, blanchi, et que cet argent, vous le mettez de côté et vous n'avez pas de frais annexes. Je suis issue du tourisme, et effectivement, ces animateurs-là peuvent être, on peut considérer que c'est un avantage. Après, au niveau des horaires, ramener au taux horaire, ce sont des gens qui gagnent 1 200 € pour un mois. Bon, nourris, logés, blanchis, mais ils travaillent de 9h à 1h du matin. Donc, on peut faire ça un temps, mais je pense qu'à passer la trentaine, ça devient compliqué. Moi, je pense que le travail saisonnier, c'est plus sauf les saisonniers qui travaillent dans de l'hôtellerie saisonnière, bien sûr. Mais sinon, le travail saisonnier, c'est plus un travail qui est subi. Hein. S'il était, enfin, on aimerait qu'il soit véritablement choisi, mais c'est plus un travail qui est subi. Quand on parle des pluriactifs locaux, oui, on parle de personnes qui habitent dans des régions de France qui sont des petits bassins d'emploi, et en fait ils vont aller prendre et travailler partout où on a besoin de main d'œuvre. C'est pas forcément une main d'œuvre qualifiée, ou alors si ce sont des jeunes en job d'été, les jeunes peuvent avoir bien sûr des qualifications et des diplômes, mais qui sont pas forcément en accord avec ce qu'ils font. Ils peuvent avoir des bacs plus 2, plus 3, des BTS dans la communication, et décident, avant de se lancer dans une vie active en CDI coincé, par exemple, de faire quelques saisons pour le relationnel, pour voir la vraie vie, si on peut dire. Mais je pense pas que d'être saisonnier dans une caisse, dans la grande distribution, en été, en Bretagne, puisque bien sûr les saisonniers sont dans l'hôtellerie, mais on en a dans le commerce aussi, dans la propreté, ouais. Puisque je pense pas que ce soit véritablement choisi. Est-ce que c'est un style de vie? Depuis la réforme de l'assurance chômage, j'ai quelques doutes, hein, puisque là, les travailleurs saisonniers sont clairement paye hein, cette réforme. Donc, pour moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait de gros avantages à être saisonnier. Maintenant, c'est un contrat qui existe en France. En France, il y a une saisonnalité. Hein, est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce que les contrats sont bien utilisés? Ça, c'est moins sûr.
Marion Olivier, vous rencontrez des saisonniers au sein de la Maison du Travail Saisonnier de Lourdes. Pourquoi viennent-ils? Quelles sont leurs motivations? Et que viennent-ils faire, d'ailleurs?
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il y a des saisonniers qui sont finalement des gens qualifiés, des experts. Hein. Nous, on travaille avec les stations et les remontées mécaniques. Quand vous êtes pisteur, vous avez une expertise de la formation, des compétences. Et c'est à nous de travailler avec les employeurs sur la question, effectivement, de la montée en compétences de la salariée pour diversifier leurs possibilités de contrat, de fidélisation, pour les employer plus longtemps tout au long de la saison. C'est-à-dire c'est tout ça, ce travail-là, qu'on engage aussi sur nos territoire, c'est effectivement de déprécariser le contrat saisonnier. Peut-être qu'effectivement, la modalité contractuelle saisonnière, elle n'est pas satisfaisante. Aujourd'hui, il y a d'autres expérimentations. Il y avait une expérimentation sur du CDI justement annualisé. Enfin voilà, nous, on travaille plutôt sur ces objectifs-là, effectivement, pour sortir de la précarité. Mais quand les gens font le choix, et il y a des gens qui font le choix du travail saisonnier parce que ça leur apporte le fait d'être avec des personnes étrangères quand on travaille dans le secteur touristique, de travailler à l'extérieur. Pour les fans de sport, ça peut être de skier. Enfin voilà, on est quand même dans des choix conscients. Alors nous, en plus, j'allais dire, sur la saison à Lourdes, on est aussi sur un choix particulier qui peut être l'accompagnement des personnes fragiles. Hein, puisqu'on parle quand même de touristes qui sont des pèlerins, qui peuvent être des malades. Enfin voilà, il y a effectivement un engagement aussi sur cette saison un peu particulière. Donc on est face, nous, à des personnes, alors effectivement parfois qui le subissent, et c'est le travail qu'on conduit aujourd'hui, de faire en sorte que ce ne soit plus subi, et on le mène en partenariat avec les employeurs pour travailler sur l'allongement des saisons, la montée en compétences des salariés pour qu'ils puissent se positionner sur des emplois diversifiés, peut-être trouver effectivement cette plus activité qui permet aussi d'enchaîner des horaires contraints avec peut-être des contraintes horaires quand on est en hôtellerie restauration, et faire un autre métier le reste de l'année qui permet aussi de trouver un équilibre peut-être de vie personnelle et familiale.
Donc pour vous, il y a des avantages quand même?
Oui, aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas autant de saisonniers qui se positionnent. Après, vous avez effectivement cette main-d'œuvre qui fait le choix de travailler saisonnier parce que elle va alterner une saison à la mer, une saison à la montagne, faire des découvertes, voyager. Entre deux saisons, avoir un temps de repos pour pouvoir se consacrer à son projet personnel. Ça, c'est encore des modèles de saisonniers, des gens qui, par exemple, sont en habitat mobile. C'est quand même des saisonniers qu'on retrouve, nous, sur nos territoires aussi. Donc, ça peut être un choix de vie volontaire, et en même temps aujourd'hui, je le redis, c'est malheureusement pas forcément un choix par rapport à la situation et en tout cas à la réalité économique de certains territoires. Donc comment effectivement on fait évoluer ce contrat saisonnier vers quelque chose de plus durable pour les saisonniers. Nous, on a aujourd'hui sur notre territoire un groupement d'employeurs qui a été aussi créé, qui vise effectivement à travailler sur la sécurisation des parcours saisonniers en permettant de trouver des contrats durables pour ces personnes, en mettant à disposition des entreprises pour pouvoir permettre d'allonger la durée de travail tout au long de l'année, effectivement, notamment en lien avec la réforme de l'assurance chômage qui a effectivement impacté un écosystème qui s'équilibrait entre travail et assurance chômage, qui aujourd'hui doit se réinventer par rapport à ce modèle-là.
Donc ça dépend des territoires. On va continuer aussi d'en discuter dans un instant. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Stéphanie Dayan, Marion Olivier, Nicolas Savary, et vous en profitez pour nous appeler, pour témoigner au 04 72 38 20 23 pour nous parler de cette situation de saisonnier, si vous avez déjà fait ça. Et puis en tant qu'employeur aussi, venez témoigner. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Vous avez déjà été saisonnier, venez témoigner, dites-nous comment vous avez vécu cette expérience. Parlez-nous également de vos enfants ou petits-enfants qui ont déjà été saisonniers. Et puis pareil pour les employeurs, pourquoi vous en recrutez? 04 72 38 20 23 pour partager avec nous vos réflexions, vos témoignages, vos réactions. Ou alors directement par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Voici Baptiste Ventadour.
Un parfum de nouveau sur l'autoroute A9, la mer et les sursauts, et mon cerveau tout neuf, l'odeur du tabac froid par-dessus les embruns, le soleil sur la vitre et le froid de tes mains.
Comment pourrais-je me plaindre? J'ai eu tellement plus mal qu'on ne pourrait attendre. Le pied sur cette pédale, j'ai comme une envie de sauter et d'embrasser la chance. Il n'y a pas de bonne raison d'apprécier l'existence, alors
autant l'aimer et la laisser filer. Autant l'aimer.
Regarde comme la vie brille de sa simplicité. Tout paraît plus facile à la vue de l'été. Nous on traverse le sud, la tête à ras de l'eau. Hurler en altitude, le faire par-dessus les oiseaux.
Il suffisait de rien pour remonter la pente. Un coup de pied dans la gueule aux conneries qui nous hantent. Et des capsules de bière, j'en aurais plein la poche. Ce putain d'univers me paraissait si moche, mais autant l'aimer et le laisser filer. Autant l'aimer.
Sauver nos âmes en jouant et respirer son air. Il n'en sera plus rien, des maudits mois d'hiver.
Ce sera peut-être l'occasion de te dire un matin que j'aimerais toutes les saisons si t'étais pas trop loin. Que je me verrais bien faire pas mal de routes encore avec tes petites mains qui font frémir mon corps. Rien que de l'imaginer, j'en ai les os qui résonnent. Et puisque pour crever on n'aura besoin de personne, alors autant s'aimer et se laisser filer. Autant s'aimer. Autant s'aimer.
Baptiste Ventadour et Zélie pour vous accompagner en ce mercredi matin, c'était l'autoroute.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et jusqu'à 11h avec nos trois invités, on parle des saisonniers. Stéphanie Dayan, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale de la CFDT Service. Marion Olivier, responsable de la Maison du Travail Saisonnier de Lourdes et Sévalet. Et Nicolas Savary, directeur de l'ANEFA, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture. Alors, je vous ai pas posé la question, Nicolas, à propos des avantages d'être saisonnier. Est-ce qu'il y en a dans le monde de l'agriculture? Est-ce que ça peut être un tremplin pour se former?
Oui, alors je partageais les propos de Marion. En tout cas, il y a certains saisonniers pour qui c'est un choix de vie de pas être attaché, enfin entre guillemets attaché à une entreprise, en tout cas avoir le CDI comme le Graal, alors qu'il y a enfin bon, il y a quelques années c'était le cas, aujourd'hui ça l'est pour en tout cas cette jeune génération, ça l'est moins. Et l'emploi saisonnier peut aussi être un tremplin, une porte ou vers l'emploi plus pérenne. Dans l'agriculture il y a effectivement la grande majorité des emplois saisonniers, on est plutôt sur des métiers de premier niveau de qualification, pardon, tels que la récolte des cultures ou la cueillette des fruits, mais pour certains emplois saisonniers comme le métier de tractoriste, ouais. La taille des arbres, ça nécessite effectivement des compétences spécifique. L'objectif aussi de la NEFA, c'est de faire en sorte que les saisonniers d'une saison puissent être saisonniers l'année suivante, mais pourquoi pas aussi être emploi, enfin être salarié permanent à l'avenir. Et nous, on essaye effectivement de promouvoir les différents dispositifs de formation tels que les certificats de qualification professionnelle qui permettent effectivement de développer l'employabilité des travailleurs saisonniers qui en ont l'envie et une certaine vocation.
Ouais. Marion Olivier, je vous ai vu au Pinet du Chef. Vous êtes d'accord avec Nicolas ?
Tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant parce que effectivement, on est tout à fait dans cette logique-là de pouvoir monter en compétences. Et nous, on le voit aujourd'hui, notamment, on essaie d'utiliser l'emploi saisonnier comme un levier d'insertion professionnelle. On a par exemple des expérimentations qu'on a lancées nous avec les bénéficiaires ou allocataires des minima sociaux pour pouvoir se réengager sur, alors pas en faire des saisonniers, hein, c'est pas forcément l'objectif, mais de pouvoir utiliser le travail saisonnier comme un levier de retour à l'emploi en plusieurs étapes, puisque c'est des contrats courts et moins engageants. On l'utilise aussi nous, puisque notre maison de travail saisonnier est portée par l'UDAF des Hautes-Pyrénées qui œuvre pour les réfugiés, la bénéficiaire de la protection internationale, donc on l'utilise aussi comme un levier d'accès à un premier emploi sur le terrain foire une fois que ces personnes ont l'autorisation de travailler. Donc effectivement, et j'allais dire, le travail saisonnier a toujours aussi eu cette vocation-là à travers l'engagement des jeunes dans les jobs d'été. C'est aussi une première expérience professionnelle valorisable, de pouvoir se mesurer, de pouvoir voir qu'est-ce qui nous intéresse. Et nous, on est aussi en train de travailler à refaire de ce travail saisonnier aussi un objet et un levier d'insertion et d'accès à l'emploi.
Stéphanie Dayan, j'ai le sentiment qu'il y a eu quand même une forme de déclic pendant la crise sanitaire où les conditions de travail des saisonniers ont vraiment été exposées à la lumière de tous.
Oui, tout simplement parce que les employeurs n'ont pas trouvé de salariés. Alors effectivement, la plupart des secteurs ont été à l'arrêt, donc les salariés qui travaillent, les saisonniers qui travaillaient dans ces entreprises, n'ont pas pu travailler. Donc ils ont profité de la crise pour se former, bien sûr, ou alors se diriger vers des emplois qui étaient plus sûrs, en tout cas vers des emplois où il n'y avait pas de coupure, où il n'y avait pas d'heures supplémentaires, ou s'il y en avait, elles étaient payées. Donc oui, les saisonniers ont été mis en lumière pendant cette période-là, et puis ils ont été impactés sur l'activité partielle de longue durée, qui là, pour le coup, ils ont fait les frais de ce que je disais au début, du travail au gris, où ils n'étaient pas déclarés complètement. Et là, ça a été une période très compliquée pour ces salariés.
Et donc un coup dur pour les employeurs également, on imagine, Stéphanie Dayan. Est-ce que ça a permis tout de même aux salariés, aux saisonniers, d'entrer en position de force pour négocier avec l'État, avec le gouvernement ?
Alors ça a rebattu les cartes. Maintenant, la négociation ne se fait pas au niveau des saisonniers, mais au niveau des branches.
Oui.
Donc effectivement, sur la branche des hôtels, cafés, restaurants, le statut saisonnier passe par la branche et sur des négociations. Et d'ailleurs, on est dessus en ce moment sur la protection sociale, sur le logement, sur les classifications. Les classifications, on a travaillé dessus, on a fait toute une grille de classification sur la branche des hôtels, cafés, restaurants. On ne peut plus embaucher quelqu'un qui a un CAP ou un brevet pro ou en adéquation avec son travail, on ne peut plus l'embaucher en bas de la grille. On est obligé de l'embaucher déjà au deuxième niveau. Il y a tout ce travail qui a été fait de refonte. On a supprimé des métiers qui n'existaient quasiment plus et on a rajouté des métiers. Les CQP aussi sont également reconnus. Donc voilà, quelqu'un qui a une compétence...
Les CQP, ce sont les certificats de qualification professionnelle, pour préciser.
Tout à fait.
Notamment dans le sport.
Voilà, mais il y en a aussi quelques-uns dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Il y a Limonadier, il y a Grilladin, il y a Écaillé, il y a les Pizzaiolo, etc. Ouais. Ces CQP maintenant sont reconnus et automatiquement un salarié rentre Il y a 5 niveaux sur la grille des HR, rentre directement sur le niveau 2. Mais oui, la crise a rebattu les cartes. Certains saisonniers, alors j'entends hein, Marion, et je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une catégorie de saisonniers qui sont des saisonniers qui ont choisi cette vie, qui ont choisi, qui travaillent dans des établissements depuis 20 ans, 30 ans, donc ils sont heureux d'être saisonniers et tout va bien, mais c'est vrai qu'en tant qu'organisation syndicale, nous, quand on va faire nos campagnes saisonnières, puisque la CFDT fait des campagnes saisonnières tous les ans, on va à la rencontre des saisonniers au moment de l'été, hein, campagne estivale, on a quand même plusieurs sons de cloche et il y a quand même des dérapages. Et forcément, quand les saisonniers viennent nous voir, c'est plus parce qu'ils rencontrent une problématique qu'autre chose. Là, nous, la CFDT, on va faire une mini-campagne, là, on va au Ménuire, là, justement, 21-22 mars, pour aller à la rencontre de ces salariés, pour qu'ils connaissent leurs droits, parce que, en fait, c'est pas parce qu'on est saisonnier qu'on doit tout subir. Ouais. Et on profite de ces moments-là pour, justement, les informer sur leurs droits, leur parler de cette portabilité que j'évoquais tout à l'heure également. Il faut que ces droits soient utilisés. Il faut que les travailleurs saisonniers ne soient plus considérés comme des travailleurs précaires. Mmh. Et corvéables à merci, hein, bien sûr.
Ça peut être un réflexe d'ailleurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure à demi-mot, mais de se dire, bon, bah, de toute façon, je suis là pour quelques semaines ou quelques mois, je vais pas trop me plaindre, je vais pas trop être exigeant, quitte à accepter un peu tout ce qui passe, Stéphanie.
Oui, oui, c'est ça. C'est. Ouais. On est embauché en contrat saisonnier pour une saison et puis en plus et manque de chance, il fait pas beau, il pleut, donc du coup on force le saisonnier à démissionner ou à quitter son emploi alors qu'il est protégé par ce contrat et qu'il aurait pas dû le faire. Ouais. Mais bah il le fait parce qu'on lui fait comprendre que écoute, c'est compliqué. Il y a plein de choses au niveau de l'hébergement, on en parlait tout à l'heure, le logement. Oui, pour le logement des saisonniers, non à des abus où on voit des employeurs qui proposent un hébergement et en contrepartie, le salarié travaille de 8 heures à minuit. On a vu des salariés qui font les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners et le rangement. Et dans leur coupure, ils vont faire les chambres. Donc en fait, les jeunes, ils veulent plus ça maintenant. Les jeunes, ils veulent donner du sens à leur travail. Ils veulent aussi profiter un peu de la vie. Alors, quand on est saisonnier à la montagne, bah oui, ça me paraît pas. Certains employeurs me disent oui, mais de mon temps, c'était pas comme ça. On me disait tu fais comme ça, et puis voilà. Maintenant, les saisonniers, ils veulent plus ça.
Vous dites que les jeunes ne sont plus prêts à accepter les mêmes conditions. Marion Olivier, est-ce qu'il y a un changement générationnel ?
Alors c'est évident. Ouais. Nous, tous les jours, on rencontre effectivement alors des employeurs qui. Qui avait recruté quelqu'un qui est parti, il y a aussi ça, hein. Effectivement, quand vous le dites très bien, c'est quand même, beaucoup de gens n'hésitent plus aujourd'hui à quitter un contrat quand ils ne sont pas satisfaits, que ce soit du salaire, des conditions d'accueil, des conditions de logement. Enfin, je pense que pour ça, effectivement, les choses ont largement évolué. Et j'allais dire, nous, toute l'année, on est là pour répondre à leurs questions et les accompagner, effectivement, à connaître leurs droits. Effectivement, la question de la santé est quelque chose d'essentiel parce que, ben, pour avoir accompagné des situations de saisonniers où quand le contrat de travail ne peut pas démarrer parce que la situation de santé est compliquée, on se retrouve très très vite dans des situations de grande précarité. Donc effectivement, sensibiliser ces personnes qui sont parfois plus fragiles que d'autres à la question de la prévention à la santé, de effectivement accepter la mutuelle de l'employeur parce qu'elle vous sera protectrice si au cours de votre contrat il vous arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas continuer à travailler et que si vous n'avez pas bossé avant, c'est important pour pouvoir aussi assurer vos indemnités journalières. Voilà. Donc effectivement, nous c'est notre travail aussi de travailler à cet accès aux droits. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un maillage territorial qui est souhaité. Hein. Il y a un plan saisonnier qui a été établi il y a un an par le gouvernement pour demander à travailler sur ce maillage territorial, lutter effectivement contre les dérives et les abus des employeurs, en tout cas contre ce qui n'était pas légal. Donc voilà, il y a effectivement, mais on perçoit quand même que la vous l'avez évoqué, hein, la question de l'arbitrage, elle est différente. Et aujourd'hui, les pressions de recrutement font que ben c'est plutôt les employeurs qui courent après les salariés que l'inverse, quoi. Hein. Donc il faut voilà, la donne a changé quand même largement sur d'où se positionne le salarié et comment il peut effectivement influencer sur son propre sort, quoi. Hein. C'est évident.
Véronique nous a rejoint 04 72 38 20 23. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute, allez-y.
Alors, je voulais apporter juste mon témoignage. Moi, je suis plus toute jeune. Ça fait 2 ans que je suis saisonnière, d'accord, hein. Alors, moi, je trouve que c'est une expérience qui est assez formatrice, hein, parce qu'on travaille avec plein de gens différents, d'âges différents, de parcours différents. Pour moi, ça a été très, à ce niveau-là, ça a été très, très formateur. J'ai appris plein de choses. Le point négatif, c'est l'aide au logement, quoi.
Ouais.
Donc, c'est ce qui met un frein. Vous voyez, là, je dois me positionner auprès d'un employeur fin de semaine. Bon, j'ai rien trouvé pour dormir.
Dans quel secteur, Véronique ?
Alors, moi, je suis spa praticienne.
Ouais.
C'est les nouveaux métiers à la mode. Hein. Donc, si vous voulez, c'est dans les spas, on fait du massage, 7 à 8 heures de massage jour, quoi. Donc, c'est quand même assez crevant. Hein.
Et notamment l'été, hein, c'est ça ?
Ben, il y a l'été, moi, l'année dernière, j'ai terminé au 31 décembre. Hein.
Ah oui. Ouais.
Et là, j'ai pas rempilé au mois de mars parce que j'ai pas trouvé de quoi me loger. Et demain, j'ai un entretien, donc dans le sud de l'Ardèche, où là, il y a possibilité d'une aide au logement. Donc, je me déplace quand même pour un entretien avec le directeur.
Donc, il y a du pour et du contre. Hein, on l'entend clairement dans ce que vous dites, Véronique. Vous avez, alors, je ne vais pas révéler votre âge, mais vous l'avez dit un peu, vous avez bientôt 60 ans. Pourquoi vous faites ça à votre âge ?
Alors, ce qui s'est passé, alors moi, c'est suite à un drame dans ma vie,
oui.
Si vous voulez, où voilà. C'est vraiment, j'ai essayé de le transformer autrement. Hein. Alors bon, j'ai perdu mon conjoint il y a 3 ans de ça. Là, sur ces entrefaits, j'ai perdu ma maman 3 semaines après. Ça m'a fait 2 deuils coup sur coup. Et ben là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai changé de...
Un changement de vie. De voilà,
ouais,
exactement. Ouais. Et ben, Véronique, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner ce matin dans Je pense donc j'agis. Et la question du logement qui revient vraiment, voilà, et ça, on en a beaucoup parlé dans l'émission. Nicolas Savary, on a parlé de cette génération qui change peut-être, qui est un peu plus exigeante en termes de conditions de travail. Est-ce que vous arrivez, vous, à trouver, à recruter dans le monde de l'agriculture ?
Dans tous les cas, effectivement, je souscris aux propos, hein, à savoir qu'aujourd'hui, les jeunes souhaitent davantage concilier vie personnelle et vie professionnelle, souhaitent avoir... vont trouver davantage de sens à ce qu'ils font dans leur emploi. Et forcément, tout cela peut avoir un impact sur effectivement le recrutement et les postes à pourvoir. Forcé de constater que de plus en plus, hein, d'agriculteurs font appel à de la main d'œuvre. Voilà, étrangère pour pallier ces difficultés à trouver des travailleurs saisonniers. Nous, en tant que voilà ANEFA, on essaie effectivement de voilà on promeut l'emploi local, mais dans certaines situations pour éviter de perdre la récolte, voilà les agriculteurs français peuvent effectivement faire appel à de la main d'œuvre étrangère, principalement plutôt quand même Europe, mais aussi pays hors espace Schengen.
Comment réagit Stéphanie Dayan ? Comment réagit la représentante de la CFDT Service ? Parce que c'est quand même, pardon, c'est un peu fou d'en arriver là, c'est-à-dire d'aller demander la main d'œuvre étrangère quand en France, pourtant, il y a des personnes qui peut-être sont motivées ou pas forcément, mais qui ont besoin finalement de remplir le frigo à la fin du mois.
Alors c'est pas nouveau, hein, la main d'œuvre étrangère dans l'agriculture. Bon, après la crise du Covid, juste après, on a vu des saisonniers qui travaillaient dans le secteur hôtellerie partir dans l'agriculture, hein, ou dans le maraîchage. Et c'était des travailleurs, des salariés français. Maintenant, c'est vrai que l'agriculture, les conditions de travail sont difficiles, il faut le dire. Hein. Après, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi dans l'hôtellerie, beaucoup de clubs de vacances ont des conventions avec certains pays.
Oui.
Et ils embauchent bien sûr des travailleurs de Tunisie ou du Maroc ou de l'île Maurice. Mais là, c'est encadré par les organisations syndicales et l'employeur. Il y a des conventions et il y a des conditions particulières à respecter.
Ouais.
Très strictes. Et en plus, ils sont hébergés. C'est un peu différent. Ils vont faire de l'animation ou même de la cuisine. Mais en tout cas, il y a l'hébergement. Dans l'agriculture, c'est plus compliqué. Maintenant, oui, c'est pas nouveau. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. Moi, je suis très contente que Véronique soit épanouie dans ce qu'elle fait. Et j'en doute pas un seul instant, parce qu'effectivement, la thalasso, les massages et tout, c'est un secteur qui recrute énormément. Et c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année. Donc, elle l'a dit, elle rencontre un problème sur l'hébergement, mais elle peut vivre de ce travail-là. Maintenant, c'est pas forcément le cas de tout le monde et de tous les saisonniers qui, pour une partie, alors c'est vrai que si on était dans un monde merveilleux, et ça j'aimerais effectivement pousser sur la formation, faire connaître en tout cas tous les dispositifs à tous les salariés qui sont précaires, mais en fait dans l'hôtellerie, on a beaucoup de jeunes qui sont surdiplômés, qui font ça plus pour...
Oui.
Pour profiter un petit peu de justement, Marion le disait, de travailler en été ou de travailler en hiver et d'avoir un petit pécule de côté. Donc, en fait, ça peut peut-être donner l'impression aussi de tirer vers le bas certaines choses, mais j'en reviens à ce que globalement, en tout cas, la génération actuelle ne veut plus des conditions de travail de nos parents ou de nos grands-parents. Ils ont besoin de sens. Maintenant, quand ça va plus, ils quittent en cours de saison. Et ils vont voir ailleurs. Et en fait, j'ai envie de dire que quand on va dans un restaurant et qu'il n'y a pas de problème de service, c'est que les salariés sont bien traités, parce que sinon, il y a des problèmes de service puisqu'il manque de personnel. Donc partout où tout se passe bien, certains patrons ont mis en place la semaine des 4 jours justement pour lutter contre cette coupure qui est très compliquée, qui crée des frais avec des déplacements en voiture, etc. Donc toutes les bonnes solutions pour faire en sorte que les salariés saisonniers travaillent dans des bonnes conditions, tout est bon à prendre.
Oui.
Mais déjà qu'on respecte le code du travail.
Je reviens sur le sens, un peu le sens, plutôt sur cette jeune génération qui de plus en plus a besoin de sens dans ce qu'elle fait, notamment dans le monde professionnel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez repéré, Marion-Olivier, des jeunes qui viennent vous voir à la maison du travail saisonnier et qui ont envie de trouver quelque chose, alors trouver c'est un grand terme aussi, mais qui a du sens?
Ressembler
alors,
à d'autres.
Ils ne vont pas forcément choisir le travail saisonnier. Alors après, ça va dépendre. Aujourd'hui, je vous redisais, on est dans une particularité, dont on est une maison de travail saisonnier qui avoue la saison lourdaise, donc une saison où on va s'adresser à des personnes en fragilité. Donc on peut avoir ces personnes qui viennent spécifiquement sur cette saisonnalité pour trouver effectivement à se réaliser par rapport à l'accompagnement de ces personnes fragiles. Donc c'est la spécificité, j'allais dire, de notre territoire. Après... Moi, je rebondis aussi sur ce que disait Véronique, effectivement. Donc, je suppose qu'elle voilà, nous aussi, on a des stations thermales nombreuses sur le territoire. Donc, effectivement, les postes d'agents thermales sont difficiles et ont du mal à être logés parce qu'on est sur des territoires touristiques. Donc, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué. Et effectivement, beaucoup évoluent vers des potentialités différentes. Donc, il y a aussi la possibilité, encore une fois, de se saisir de l'emploi saisonnier comme une première expérience professionnelle. Et nous, on accompagne ça. C'est-à-dire se dire, et y compris ceux qui sont saisonniers et qui disent, moi j'aimerais faire autre chose aujourd'hui et quitter la ouais. saison, me qualifier. Enfin, c'est, ça, ça fait partie aussi des rôles qu'on a. Hein. Je veux dire, on ne s'adresse pas que pour. On s'adresse à, et c'est la particularité, c'est que nous, on a l'agilité de le faire. C'est-à-dire qu'un salarié saisonnier, il va alterner entre la situation de demandeur, le statut de demandeur d'emploi et de salarié. Et du coup, il n'a pas forcément d'interlocuteur. Hein. Et c'est vrai que Stéphanie le disait, c'est compliqué de trouver et d'avoir ses droits. Et donc nous, on sert à ça, c'est-à-dire à quel que soit le statut qu'il a, il sait qu'il va trouver auprès ouais. de nos espaces saisonniers, puisqu'on est quand même une dizaine sur l'Occitanie aujourd'hui, la réponse à ces questions et à ces évolutions professionnelles.
Je résume un peu tout ce qu'on s'est dit parce qu'on va accueillir notre chroniqueuse dans un instant. Il y a eu des dérapages, il y en a peut-être encore, mais il y a des améliorations notables, ce n'est pas fini. Et il y a encore voilà, aussi peut-être à se battre pour protéger beaucoup plus les saisonniers et puis plus généralement les travailleurs en France. Il est 10h55 et ce n'est pas fini. Puisque tout de suite, et comme tous les mercredis, on va parler de l'éducation. Et on retrouve notre chroniqueuse Marion Denis du think tank Vers le Haut. Bonjour Marion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'engagement à l'environnement pour les plus jeunes et les moins jeunes ce matin.
Oui, tout à fait. Alors nous le savons, nous ne pouvons pas ignorer les rapports alarmants sur le réchauffement climatique. Les scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour réduire notre empreinte écologique, les conséquences pourraient être désastreuses pour notre planète et pour les générations futures. C'est dans ce contexte crucial que des initiatives locales prennent tout leur sens et Ma Petite Planète en est un exemple éloquent. Alors fondée il y a 5 ans par des passionnés de l'environnement, l'association Ma Petite Planète s'est donnée pour mission de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques et d'encourager des actions concrètes en faveur de la préservation de notre planète. L'association organise régulièrement des événements de sensibilisation, des nettoyages de plages, des ateliers de recyclage et bien plus encore.
Et est-ce que l'association implique-t-elle des jeunes dans ces démarches ?
Alors oui, tout à fait. Ma Petite Planète est très active dans l'implication des jeunes dans ces actions en faveur de l'environnement. L'association reconnaît l'importance de sensibiliser et d'éduquer les jeunes générations sur les enjeux écologiques, car ils sont les leaders de demain et auront un impact crucial sur l'avenir de notre planète. Alors pour atteindre cet objectif, Ma Petite Planète organise régulièrement des activités spécifiquement conçues pour les jeunes, tels que des ateliers pédagogiques dans les écoles, des camps de vacances axés sur l'environnement, des projets de sensibilisation dans les centres de jeunesse et bien d'autres initiatives. Alors en travaillant avec les jeunes, l'association cherche à les inspirer, à les éduquer et à les encourager à devenir des acteurs du changement positif pour l'environnement. En les impliquant dès leur plus jeune âge, Ma Petite Planète espère créer une génération consciente et engagée dans la protection de notre planète.
Et ça va dans le sens de votre baromètre, Marion, et des jeunes qui disent vouloir participer à des projets concrets pour la planète plutôt que des enseignements.
Oui, exactement. Alors, dans notre dernier baromètre Jeunesse et Confiance, moi, les autres, la planète, nous avons consacré un focus sur les défis environnementaux. Côté enseignement, une majorité des jeunes répondants et de leurs parents estiment que la participation des élèves et étudiants à des projets ayant un impact concret sur l'environnement permettrait de mieux préparer les jeunes à faire face aux enjeux environnementaux. Une éducation qui ne peut pas se limiter à l'initiative individuelle. Les jeunes ont besoin de concret et d'associations comme Ma Petite Planète.
Et de sens également. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans cette émission. Merci beaucoup Marion Denis d'avoir été avec nous pour nous préciser tout cela. Et puis c'est déjà la fin de cette émission, vous entendez le générique. Merci Marion Olivier également pour votre participation, de nous avoir parlé de la Maison du Travail Saisonnier de Lourdes et de ses vallées, à retrouver sur le site internet udaf65.fr. On mettra tous les liens sur rcf.fr. Merci Nicolas Savary, directeur de l'ANEFA, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture. Rendez-vous sur anefa.org. Et merci beaucoup Stéphanie Dayan, également à vous et à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait, secrétaire national de la CFDT Service, à retrouver sur le site cfdt.fr. Merci à tous les trois, merci à Hugo et Catherine à la réalisation. On se retrouve demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis. On parlera des enjeux de la souveraineté alimentaire. Bonne journée.